Tout de suite, les infos. Tout de suite, les infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, le président Paul-Henri Damiba a échappé à deux coups d'État de mai en juin, selon Pascal Zaïda de la Coordination nationale pour une transition réussie. Gilbert Diendéré en permission pour 5 jours, ce n'est pas une liberté provisoire, selon ses avocats. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, des retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité, a déclaré l'ancien président Gbagbo. Au Mali, l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet dernier ne cesse de susciter de nombreux rebondissements. Le gouvernement malien a annoncé la suspension depuis hier de toutes les rotations de contingents militaires et policiers de la MINUSMA. Et puis la création des zones d'intérêt militaire au Burkina et les déplacements de population que cela va susciter. On en parle avec le professeur Alkassoum Maïga, enseignant-chercheur, ancien ministre et porte-parole du gouvernement. Il est notre invité du jour. Situation nationale, le président Paul-Henri Damiba a échappé à 2 tentatives de coup d'État. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Pascal Zaïda de la Coordination nationale pour une transition réussie. Il se prononçait hier lors d'une conférence de presse sur la gestion de la transition. Le point avec Valérie Traoré.
Le tissu social au Burkina Faso est mal en point, et cela sur le plan politique, militaire et communautaire. C'est le diagnostic que pose la Coordination nationale pour une transition réussie, CNTR, lors de cette Assemblée générale. Et pour réussir la réconciliation nationale, Pascal Zaïda et ses camarades prônent l'union sacrée de tous les Burkinabés, d'où le choix du thème de la présente rencontre qui est « Cohésion sociale et réconciliation nationale ». Dans un contexte sécuritaire difficile. Pascal Zaïda est le porte-parole de la CNTR.
C'est un message de paix, de réconciliation, d'humilité, afin que nous puissions construire ce pays. C'est vrai, nos petits frères ont pris le pouvoir parce qu'à un moment donné, ça ne va pas. Ils ont été mal conseillés. Ils sont toujours mal conseillés. Je l'ai dit et je le répète, j'aime ce pays, je risque ma vie pour ce pays. Je voudrais vous demander, chacun là où se trouve, de donner un message de paix, un message réconciliant, afin que le Burkina Faso puisse avancer.
Convaincu que ce qui nous unit est plus fort que ce que nous divise, le porte-parole de la CNTR lance un appel pour que la question de la réconciliation nationale soit érigée en devoir patriotique. Et cela urge car il y a péril en la demeure, prévient Pascal Zaïda.
Nous ne l'avons pas réveillé des plaies. On ne va pas dire un tel a fait ça hier ou avant-hier. Mais aujourd'hui, regardons ce qui va se passer pour que ce pays puisse avancer. Il y a trop de problèmes. Le pays, ça ne va pas. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Du mois de mai à juin, Damiba a échappé à 2 coups d'État.
La justice ne doit pas être opposée à la réconciliation nationale, mais doit être plutôt considérée comme un tremplin, selon la Coordination nationale pour une transition réussie. Pour ce faire, elle préconise la recherche d'une forme de justice qui soit compatible avec l'impératif de réconciliation. Toujours au titre de la justice, la CNR propose entre autres le vote d'une loi d'amnistie pour consacrer le pardon des condamnés pour crimes politiques, la poursuite de l'examen de l'indemnisation des parents des victimes des crimes politiques et l'organisation d'une journée nationale du pardon et du renouveau.
Reportage de Valérie Traoré avec la voix de Charles Da. Lutte contre le terrorisme, le mouvement Burkina. Russie estime que la coopération économique et militaire entre le Burkina et la France a montré ses limites. Et comme son nom l'indique, il prône une coopération bilatérale entre le Burkina et la Russie. Ses membres l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse hier à Ouagadougou. Plus de détails avec Abdulaziz Zoulabou.
Le Burkina Faso compte actuellement près de 2 millions de déplacés internes avec plus de 40% du territoire assiégé par les groupes armés terroristes. C'est une peinture de la situation sécuritaire faite par le mouvement Burkina Russie qui appelle de vive voix le président Damiba à entreprendre des démarches avec le président russe Vladimir Poutine. Barthélémy Zaongo est le porte-parole du mouvement.
La Russie peut nous aider avec des armements, concrètement parlant, parce qu'on n'en a pas l'armée même quand nous causons avec les gendarmes, les FDS, ils disent qu'il y a un manque d'armement. Mais c'est tout ça, c'est lié aux accords. Voilà, les accords secrets qui nous lient avec l'ancienne puissance coloniale, qui ne nous permet pas de diversifier ses partenariats. Voilà, donc la Russie peut vraiment nous aider, voilà, avec des conseillers militaires, avec de l'armement.
Outre la question du choix de partenaire, la réconciliation nationale est aussi une des conditions nécessaires pour venir à bout de ce phénomène, fort de Barthélémy Zaongo.
Et nous ne pouvons pas demander, comme je le disais tantôt, à des gens qui sont à des milliers de kilomètres de venir nous aider, alors que nous-mêmes, nous ne parlons pas. Ça ne marche pas. Donc, nous ne voulons pas vraiment que les Burkinabés soient divisés. Alors, plus de 40% de la population du territoire est déjà pris par les terroristes. Donc, nous demandons vraiment aux Burkinabés de s'unir d'abord.
Le mouvement Burkina Russie souhaite également qu'il y ait une révolution judiciaire, chose qui va lui consacrer son indépendance réelle. Quel que soit le statut d'une personne, elle devra pouvoir se mettre à la disposition de la justice si des faits lui sont reprochés, affirme-t-il.
Abdulaziz Zoulabou, en tout cas, les présumés auteurs du braquage survenu hier à Koubri, à une trentaine de kilomètres au sud de Ouagadougou, ont été arrêtés. Deux individus armés de pistolets automatiques ont perpétré une attaque contre la caisse populaire de Koubri, a expliqué la police nationale dans un communiqué sur sa page Facebook. La détermination des hommes du commissaire de police, Paterne Boussim, chef du poste de police de Koubri, a permis de mettre la main sur ces derniers qui avaient pris la fuite en direction du village de Kounda. Après leur forfait, relate le communiqué qui précise que les individus interpellés ont été conduits au poste pour la suite de l'enquête. Comme annoncé en titre, le général Gilbert Diendéré a obtenu une permission de 5 jours. Il a bénéficié d'une permission comme bien d'autres personnes, ce qui est normal, a confié hier soir à Omega, un des avocats du général. C'est bien cela, Lamine Traoré.
C'est bien cela. Il vous souviendra que quand il a perdu sa maman, il a bénéficié d'une permission pour aller assister aux obsèques. C'est tout à fait normal. Ce sont des permissions qui sont encadrées par la loi, a affirmé un des avocats de Diendéré. Il pourrait aller là où il veut, rendre visite à qui il veut, confie-t-il, et de poursuivre qu'il ne sait pas si le général est déjà dehors. Je dois vous le préciser, c'est pas une liberté provisoire, c'est une permission, indique l'avocat. Gilbert Diendéré a été condamné à la prison à vie dans l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 autres de ses compagnons. Bien avant cette condamnation, il purge une autre condamnation de 20 ans de prison pour sa tentative de coup d'État en 2015.
Le président du Faso a rencontré hier en fin de matinée les leaders de la chefferie coutumière et traditionnelle, une rencontre d'échange pour demander leur implication et leur concours pour un retour de la paix au Burkina Faso. Le point avec Asma Odao.
Selon la présidence du Faso, le président de la transition, Paul-Henri Damiba, a déclaré que la chefferie traditionnelle et coutumière a toujours été le garant de l'unité nationale et de la cohésion au Burkina Faso. Et c'est pour cela qu'il a initié cette rencontre d'échange pour demander leur implication et leur concours pour un retour de la paix dans notre pays. La situation actuelle du Burkina Faso nous interpelle tous et surtout les chefs coutumiers et traditionnels en premier lieu car ils sont les dépositaires des valeurs ancestrales et culturelles. Le lieutenant-colonel a par ailleurs d'ailleurs invité les chefs coutumiers traditionnels à orienter leurs efforts vers la recherche de la cohésion et de l'unité nationale, peut-on lire dans le communiqué publié par la présidence du Faso. Le 29 juin dernier, les chefs supérieurs coutumiers et traditionnels avaient interpellé les autorités du pays à concentrer leur énergie dans la lutte contre le terrorisme, le recouvrement de l'intégrité du territoire. Ils avaient aussi interpellé des Burkinabés qui ont des armes en main à les déposer, à revenir à la raison et à la maison.
Au cours de la rencontre, le chef de l'État a rassuré les chefs coutumiers que sa rencontre avec les anciens présidents ne vise pas à restaurer un ordre ancien. Écoutez Paul-Henri Damiba.
Messieurs les responsables coutumiers, cette rencontre me donne aussi l'opportunité d'évoquer la démarche que j'ai eue avec les anciens chefs d'État, rencontre que nous avons bien voulu ici au Burkina Faso, sur la terre de nos ancêtres. Pour diverses raisons déjà relayées par voie de presse, tous n'étaient pas au rendez-vous. Nos échanges étaient essentiellement orientés vers la concertation, le dialogue, la recherche de solutions pour une véritable harmonie nationale, gage de notre succès dans la lutte contre la violence extrémiste. Car nous sommes profondément convaincus que c'est dans la mobilisation totale de tous que les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme engrangeront davantage de résultats sur le terrain. Loin de nous, l'idée de restaurer un quelconque ordre ancien ou de consacrer l'impunité dans notre pays.
Le chef de l'État, Paul-Henri Damiba, est hier soir, soit 4 jours après la rencontre des anciens chefs d'État burkinabés autour du lieutenant-colonel Damiba. C'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui a rencontré ses prédécesseurs, Henri Konan-Bédier et Laurent Gbagbo. Une rencontre des retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité, a déclaré Laurent Gbagbo, que je vous invite à écouter.
Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat sociopolitique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan-Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel.
Une réunion ordinaire qui sera régulière a poursuivi Alassane Ouattara. Cette première entrevue doit servir à faire avancer la réconciliation après la crise, après les crises de 2010, 2011, puis 2020, mais également préparer les prochains scrutins de 2023 jusqu'à la présidentielle de 2025. Parlons de cette autre rencontre, cette fois entre le président Mohamed Bazoum et son homologue tchadien, Mahamat Idriss Déby. En marge d'une visite d'amitié et de travail, le président nigérien est arrivé au Tchad. Les deux chefs d'État ont évoqué la question de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Ils ont affiché leur engagement à jouer les premiers rôles au sein de cet espace sous-régional. Un accord militaire entre le Tchad et le Niger a été signé à cet effet. Adams Khaled Ouedraogo.
Faire renaître la force conjointe du G5 Sahel de ses cendres, c'est la volonté affichée par le président du Conseil militaire de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby, et le président nigérien Mohamed Bazoum. Un engagement qui s'est matérialisé par la signature d'un accord de coopération sécuritaire entre les deux pays. Lors d'un point de presse tenu en marge de cette visite d'amitié et de travail du président nigérien Mohamed Bazoum au Tchad, question du retrait du Mali du G5 Sahel s'est invitée au cœur des échanges. Nous regrettons ce retrait et espérons que le Mali revienne sur la décision prise parce que la lutte contre le terrorisme est un combat qu'un pays ne peut pas faire seul, a déclaré Mahamat Idriss Déby à l'AFP. Une rencontre a été annoncée très prochainement par Mohamed Bazoum dans l'optique de passer outre les divergences et d'envisager un retour du Mali au sein du G5 Sahel. Le 15 mai 2022, le Mali avait annoncé son retrait de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, dénonçant le refus qui lui a été opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale.
Et puis au Mali, le gouvernement a annoncé hier la suspension de toutes les rotations militaires de la MINUSMA avec effet immédiat. Pour justifier cette décision, les autorités invoquent un contexte de sécurité nationale. Cette mesure intervient 4 jours après l'interpellation de 49 militaires ivoiriens que le gouvernement malien a qualifié de mercenaires. Abidjan soutient que ces soldats étaient déployés au Mali en tant qu'éléments nationaux de soutien au contingent des missions de maintien de la paix, de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques. Sauf que l'ONU insiste que ces soldats ivoiriens ne font pas partie de la liste de ses effectifs, une affaire qui continue de créer la polémique.
Omega Sport.
On parle des quarts de finale de la CAN féminine Maroc 2022. Le Nigeria a battu hier le Cameroun et continue en demi-finale, 1-0 pour les Super Falcons. Dans l'autre confrontation du jour entre l'Afrique du Sud et la Tunisie, ce sont les Bayana Bayana qui l'emportent 1-0. Les 4 équipes qualifiées donc pour les demi-finales sont la Zambie, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud.
L'invité du jour. L'invité du jour.
L'invité de cette édition est le professeur Alkassoum Maïga, enseignant-chercheur, ancien ministre et porte-parole du gouvernement. Il donne son avis sur la gestion de la crise sécuritaire, notamment la création des zones d'intérêt militaire et les déplacements de population que cela va susciter. Il estime que pour plus d'efficacité dans la stratégie de l'armée, ces zones doivent être déclarées d'utilité publique. L'autre enjeu de l'évacuation des populations de ces zones d'intérêt militaire, selon lui, c'est comment distinguer le bon grain de l'ivraie. Ces propos ont été recueillis par Denis Ongrana.
Alkassoum Maïga, bonjour.
Oui, bonjour Denis.
Vous étiez le dernier porte-parole du dernier gouvernement de Roch Kabore. Alors aujourd'hui, quelle appréciation vous faites justement de la situation sécuritaire au Burkina Faso?
Je ne suis pas là dans la peau du porte-parole, mais je suis là comme un Burkinabé ordinaire, professeur de sociologie qui observe, qui a été dans l'action gouvernementale. Nous avons tenté de faire ce qu'on devait et ce qu'on pouvait faire. Mais les événements sont les événements. Et aujourd'hui, il faut avoir beaucoup de pensées pour les Burkinabés qui souffrent dans leurs âmes et dans leur chair du fait de l'insécurité. Et je pense que rien que pour ces raisons-là, il n'y a pas lieu de polémiquer sur des questions aussi sensibles que celles de l'insécurité. Le constat est là. Tout le monde constate effectivement que nous ne sommes pas sur la piste de l'amélioration. Mais nous devons nous donner les coups de franche pour que plus jamais de souffrance dans ce pays-là du fait de l'insécurité.
Il n'y a pas eu d'amélioration. Pourtant, les nouvelles autorités, le MPSS est basé sur l'insécurité pour mener le coup d'État. Aujourd'hui, la situation semble n'avoir pas évolué. Faut-il en rire ou en pleurer?
Non, je pense que de toutes les façons, on était dans les larmes déjà. Ce pays n'a pas connu un moment de répit. Et ça, tout le monde le sait. 7 ans où on a espéré pouvoir apporter des solutions. 7 ans où on a tenté ce qu'il fallait tenter. Mais chaque fois qu'il y a un Burkinabé qui tombe, il n'y a pas de l'espace pour le rire.
Le gouvernement actuel a décidé donc d'aller au dialogue avec les groupes armés, ceux-là qui ont pris les armes contre leur pays. Pensez-vous que cela puisse être la solution?
Est-ce que lorsque vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas clairement identifiés, même si nous pensons qu'une grande partie d'entre eux sont des frères qui ont pris des armes contre leur propre pays, mais il faut déjà identifier ceux qui sont dans cette posture-là pour engager le dialogue. Si on sait où ils se trouvent, si on sait qui ils sont, moi, je n'ai pas de problème qu'on engage des échanges avec eux. Mais quand vous regardez les atrocités sur le terrain, vous ne pouvez pas dialoguer avec des gens qui n'ont pour mode opératoire que de semer la désolation. Ce que nous avons vu à Setenga, ce que nous avons vu dans certaines zones, ne laisse pas de place au dialogue avec ces gens. Actuellement, du fait des incursions qu'ils arrivent à faire, ils sont dans la posture de penser qu'ils sont capables assez rapidement de prendre tout le pays. Donc il ne faut pas qu'on perde notre temps à réfléchir sur des dialogues avec des gens qui sont en train de nous agresser et de semer sérieusement la désolation.
Et à ce niveau, du côté de la ville de Djibo, à un moment donné, on a cru entendre que le dialogue avait marché, ce qui avait permis à ce que le calme revienne, que la ville soit ravitaillée. Ne pensez-vous pas donc que justement ceux-là qui attaquent le Burkina Faso sont aussi disposés à écouter?
Mais c'est quoi la situation aujourd'hui à Djibo? Si ça avait vraiment marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on retourne à la case départ? Ce sont des stratégies. Lorsque je me sens acculé et que je pense que j'ai besoin d'un répit, je peux effectivement tendre la main pour le dialogue. Mais après, c'est des coups qui partent par derrière la nuque. Lorsqu'on va prendre du terrain sur eux, je pense que le dialogue pourra s'installer. On ne peut pas négocier en situation de faiblesse.
Alors, il y a que le gouvernement annonce également la création de zones d'intérêt militaire. Quelle analyse vous faites par rapport à cette autre question?
Bon, je pense qu'au stade où on en est, tout ce qui doit être tenté pour gagner le combat mérite d'être tenté. Je peux donc commencer par saluer l'idée de dire qu'on va faire des zones d'intérêt militaire. Mais il faut que ça soit fonctionnel. Et si vous faites des zones d'intérêt militaire qui ne sont même pas des zones militaires, l'intérêt se trouve où?
Donc,
il faut commencer par... Il faut militariser. Bon, si moi je dis, je me crée une zone d'intérêt pour mes activités, c'est que je dois occuper le lieu avec mes activités. Il faut qu'il y ait la présence militaire dans ces zones. Sinon, l'intérêt, il est fictif. Ben, si on découpe des zones et puis on dit que ce sont des zones d'intérêt militaire, moi j'aurais voulu que d'abord on les occupe et après on opérationnalise en disant que nous sommes dans des zones d'intérêt militaire. Bon, là, on dira aux gens de partir. Mais qui reste derrière? Pour être sûr que l'intérêt militaire qu'on veut défendre dans cette zone-là sera préservé. Donc ça, c'est ma première préoccupation. La seconde préoccupation, c'est que quand l'État doit occuper une zone, pour quelque activité que ce soit, la bonne démarche, c'est de faire une déclaration d'utilité publique qui donne les forces et les moyens à l'État de faire en sorte que les occupants puissent partir pour que l'État puisse dérouler ce qu'il doit dérouler. Mais je comprends, dans l'urgence, c'est une situation de guerre où on n'a pas le temps de faire tous ces arrangements. Sinon, les textes sont clairs sur ces questions-là. Ensuite, lorsqu'on a cela, il faut être sûr que, lorsqu'on va demander aux populations de partir, que l'ivraie ne va pas suivre le bon gré. C'est-à-dire que nous, on va déplacer nos populations en leur disant que c'est une zone d'intérêt militaire. Mais les complices qui sont avec ces populations-là, les agresseurs qui sont avec ces populations-là, on a quel moyen pour s'assurer qu'on ne va pas nous-mêmes aider ces gens-là à se transporter dans des zones où ils vont aller donc agresser nos populations?
Merci, Al-Kassou Maïga.
Merci à vous, Denis.
C'était l'invité de la rédaction.
Le professeur Al-Kassoum Maïga, enseignant-chercheur, ancien ministre et porte-parole du gouvernement, répondait aux questions de Denis Zungrana. Et c'est ici que prend fin ce journal réalisé par Edwige Tienrebeugo. Merci de votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Radio Méga.
Radio Méga, l'info en direct.
103.9